Morning Edition from NPR News.
Même si qui s'en pique de house.
France Inter, le 18-20.
Et dans un instant, nous allons aux États-Unis prendre des nouvelles de Joe Biden, un peu empêtré dans ses grandes réformes qu'il ne parvient pas à faire passer, empêtré dans son épidémie aussi, avec en face des républicains qui, eux, regardent tranquillement le bateau tanguer dans un pays qui, lui, s'interroge grandement sur l'état de la démocratie. Et on y vient dans un instant. Le bruit du monde ce soir est au Mali, sur une des 3 bases françaises sur 8 destinées à fermer dans l'année. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Legeny a trouvé justement des démissions en masse aux États-Unis et ça se passe sur TikTok. Des prix de location à Glasgow avant la COP26 qui ont perdu tout sens commun, et puis une épée dans l'eau et ça se passe en Israël. À 18h50, le cinéma en VO avec la First Cow. Elle a tant de choses à dire, cette vache, sur l'état de nos ressources, l'état du climat. C'est un film à voir, nous dira Corinne Pellissier. 18h55, le monde d'après de Franck Madvon ce soir au Soudan. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Corentin Célin.
Bonsoir.
Agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. Vous êtes enseignant en classe préparatoire et vous chroniquez très régulièrement pour Les Jours. Il y a plusieurs choses, Corentin Célin, qui nous intéressent aux États-Unis en ce moment, chez les démocrates, mais aussi, et au fond, l'un va avec l'autre, si je puis dire, sur les plaies qui ne sont pas encore refermées d'une élection de novembre que l'on sent toujours aujourd'hui. D'abord, et pardon de le dire comme ça, Biden est installé depuis un an seulement, mais enfin, on sait que la première année souvent est cruciale aux États-Unis. Certes, la route est longue, mais est-ce que vous diriez au moment où on se parle qu'il est en train de se planter, Joe Biden ?
Alors, se planter, on attendra vraiment la première année, d'autant que je sais que ça fait un peu cliché, mais les prochaines semaines sont vraiment décisives par les échéances qu'il a lui-même fixées. Mais ce qui est certain, c'est que son mandat ressemble davantage au bilan contrasté des élections de novembre qui nous avaient peut-être échappé sur le moment. C'est-à-dire, oui, une présidentielle remportée au vote populaire de manière assez large par Biden, mais une performance des démocrates pour les élections pour le Congrès qui était très décevante, avec des pertes de sièges à la Chambre des représentants, avec un 50-50 au Sénat qui n'est pas une vraie majorité. Et bien aujourd'hui, Biden, il paye le prix de cette élection qui n'était pas si triomphale que cela. Et c'est une grande différence, il faut bien insister, avec les précédents présidents démocrates qui, au début de leur premier mandat, que ce soit Obama, que ce soit Clinton, que ce soit un peu plus loin Jimmy Carter, ils avaient un congrès vraiment largement acquis à leur cause. Et pour passer des grandes réformes, c'est plus facile.
Ça veut dire effectivement que les ambitions sont très, pour le moins, contrariées, très contrariées à la baisse. Et quand je dis à la baisse, ça veut même dire en chiffres, parce qu'on est parti, je me souviens, bille en tête, on se souvient tous, bille en tête, avec des chiffres phénoménaux de relance, un plan en deux parties, les infrastructures d'un côté, et puis des réformes sociales immenses de l'autre. Est-ce qu'il est en train de tomber comme peau de chagrin, ce plan ?
Oui, c'est d'ailleurs, on l'a appris cette nuit, on va pas sous les chiffres, mais par exemple, le grand projet de réforme de dépenses sociales de Biden était chiffré originellement à 3 500 milliards de dollars sur 10 ans. Et Biden lui-même, cette nuit, la Maison-Blanche, ont fait savoir que désormais, on était sur 1 900 milliards. Donc, on voit bien, quand même, déjà, on a presque réduit de moitié. Ouais. Et en fait, il y a aussi la différence entre des ambitions qui sont contraintes par le contexte mondial. C'est-à-dire, le climat, c'est maintenant. Les dépenses d'investissement sur le climat, c'est maintenant. On peut plus reculer. Et en même temps, on a une majorité politique qui est faible, qui est ténue, et qui n'est pas assortie à ces grandes ambitions. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que, on rappellera simplement que pour faire passer, par exemple, ce grand plan de dépenses, le Build Back Better, Biden doit compter sur 2 des 50 sénateurs qui sont les plus conservateurs, les plus centristes, parce que sans eux, ça ne peut pas passer, parce que précisément, il a une majorité à 50-50, et donc, il faut qu'il tienne les 50 sénateurs démocrates. Or, les 50 sénateurs démocrates, ça va de Bernie Sanders, c'est-à-dire d'une gauche progressiste, socialiste, à justement les 2 sénateurs qui ont acquis une importance capitale ces derniers jours, Joe Manchin et Kirsten Sinema, et qui eux sont
Virginie Occidentale et Arizona.
Arizona, voilà, et qui eux sont des plus que des centristes, qui sont des sénateurs démocrates conservateurs, extrêmement rigoureux en matière de dépenses publiques, et qui ne veulent pas s'engager sur 10 ans de dépenses publiques à fond. fond perdu.
Alors, on les connaissait, hein, ces deux sénateurs-là. Joe Manchin, particulièrement, avait déjà fait parler de lui. L'impression que ça donne, c'est qu'il y a eu l'union de tous les démocrates, effectivement, contre un seul homme, avec comme objectif de battre Donald Trump. Effectivement, ça a été réussi. Ça a été réussi dans la douleur, mais ça a été réussi. Mais au fond, ça ne tient pas l'exercice du pouvoir. Mais ne me dites pas qu'il le découvre, Joe Biden, que ça ne peut pas tenir l'exercice du pouvoir.
Non, il ne le découvre pas, mais j'allais dire que, et on va en parler ensuite, la crise démocratique que traversent les États-Unis, la crise en particulier sur les modalités des élections, lui donne en partie raison. C'est vrai que l'élection de 2020, c'était une élection sur quelle démocratie voulons-nous aux États-Unis, et il y avait quand même un sentiment qui a été partagé par une majorité que Donald Trump remettait en cause certains fondements de la démocratie libérale états-unienne. De ce point de vue-là, le diagnostic était juste. Mais le problème, c'est que ce front anti-Trump, ce front pour la préservation de la démocratie, eh bien, il n'efface pas des divisions sociétales, économiques anciennes entre essentiellement deux pôles au sein du Parti démocrate. Un pôle social-libéral qui accepte le compromis avec le capitalisme financier, qui accepte aussi, par exemple, que les élections soient financées par les capitaux privés, et une gauche, certes minoritaire, progressiste, socialiste, qui veut un changement beaucoup plus radical avec le capitalisme, en particulier sur la question climatique.
C'est vrai qu'on a un peu le sentiment quand même que on a cru qu'on tournait une page, en fait, au moment du mois de janvier, après l'investiture, on tourne la page Trump, et en même temps qu'on tourne la page Trump, on tourne la page Covid. Donc on tourne aussi, effectivement, la page d'une certaine vision de la démocratie américaine, on tourne la page aussi d'une forme d'économie ultralibérale, on allait tourner toutes ces pages-là. On tombe un peu de la chaise quand même.
Oui, alors on tombe.
Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a eu trop d'euphorie trop vite, en fait ? C'est ça aussi que ça veut dire. De notre part, mais aussi de leur part à eux. Hein,
Oui, parce que je crois qu'il y a eu déjà une euphorie et un soulagement, surtout après les événements du 6 janvier et l'insurrection contre le Capitole. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont eu très très peur, ont vu quand même l'état de division de la société et cette invasion du Congrès le 6 janvier, et le fait que Donald Trump, sans reconnaître sa défaite, car il faut toujours le rappeler, il n'a pas reconnu sa défaite. Non. Pour lui, il n'a pas perdu l'élection de novembre 2020.
Et il l'a redit très récemment, en ces termes-là, pardon, je vous interromps, Corentin Célin, en disant, on l'a entendu ici même grâce à Sébastien Paour, je vous rappelle que contrairement à Hillary Clinton, ce qui parle à ses électeurs, je n'ai jamais reconnu ma défaite. Donc voilà. Ça, au moins, c'est très clair.
Mais donc, il y a eu un soulagement et donc, il y a entraîné une euphorie, effectivement, parce que finalement, on s'est dit, bon, bah, finalement, il y a quand même cette transition qui s'opère. Mais ce soulagement euphorique a effectivement masqué que le plus dur restait à faire, et surtout il a masqué que presque la moitié des États-Unis sont de manière fervente avec Donald Trump. Aujourd'hui, il y a toujours 70, selon les sondages, à 70% des républicains qui pensent qu'il a gagné l'élection. Donc, on a vraiment une véritable césure dans la population. Et j'allais dire que les élus républicains ne font que refléter cette césure. Ils vont là où sont leurs électeurs. Et donc, évidemment, ça rend quasi impossible le moindre consensus sur la moindre réforme.
On lit des choses, Corentin Célin, qui sont extrêmement pessimistes. Il a été beaucoup commenté aux États-Unis ce texte de Robert Kagan dans le New York Times, qui est un conservateur, hein, Kagan, et qui dit, en gros, qu'il voit un éclatement de la démocratie américaine, qui parle d'incidents de violence de masse à venir, à la fois dans l'élection à mi-mandat qui arrive là, en 2022, et aussi, plus précisément, probablement pour l'élection de 2024, qui voit une vraie crainte que ces plaies du 6 janvier ressurgissent, que rien ne soit réellement refermé. Est-ce que cette crainte, elle vous semble justifiée ? Est-ce qu'elle commence réellement à inquiéter l'ensemble du camp démocrate ?
Oui, alors elle inquiète les démocrates, car il faut rappeler que depuis un an, dans les États fédérés, donc dans les États locaux, là où les républicains sont majoritaires, ils ont fait voter, en Géorgie par exemple, des lois restreignant l'accès au vote par correspondance et donnant en ça raison, en fait, à la thèse de Trump. C'est-à-dire, c'est des fraudes sur le vote par correspondance qui ont amené ma victoire volée, et donc il faut restreindre l'accès au vote par correspondance. Par ailleurs, ceux qui pensent que Trump a gagné l'élection, donc qui sont souvent des conspirationnistes, se présentent en ce moment pour être élus responsables des élections dans les États fédérés. Oui. Et donc tout cela démontre que bientôt vont se retrouver aux urnes deux camps dont l'un pense qu'il a été volé de la précédente élection et qui met tout en place pour éviter ce qu'il considère comme un vol. Donc par conséquent, même si Kagan est peut-être un petit peu...
Il est très 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 pessimiste.
Voilà, mais, très pessimiste.
Le tableau qu'il dresse, c'est la fin de la démocratie américaine.
Voilà. Enfin, quand même... mais il a raison sur un point, c'est qu'on on avance vers deux camps aux conceptions complètement irréconciliables du vote et de la démocratie qui vont se confronter aux urnes. Et j'allais dire, le pli est pris. Qu'est-ce qui empêchera à la prochaine élection serrée quelqu'un de dire, ben non, je n'ai pas perdu. Donc là, vraiment, effectivement, on entre dans une zone de très grande turbulence.
Ça veut dire qu'il y a vraiment un récit qui s'est désormais installé, qui désormais a les deux pattes bien au sol, un vrai récit qui va jusqu'à l'invasion, entre guillemets, du Capitole du 6 janvier.
Oui, absolument. Pour une, d'ailleurs, ça a été, je pense, une des grandes évolutions, peut-être pas assez notée de Donald Trump durant cette année. Donald Trump, aujourd'hui, apporte un soutien clair aux insurgés du 6 janvier. Il les appelle des patriotes. On a bien vu l'autre jour qu'il a souhaité l'anniversaire, j'allais dire, post-mortem de Ashley Babbitt, qui a été abattue parce qu'elle cherchait à s'introduire au Congrès par un policier du Capitole. Trump la considère comme une héroïne. Et on voit bien que pour lui, maintenant, ces personnes-là étaient des patriotes qui ne faisaient que défendre leurs droits. Et c'est un récit qu'il a complètement installé. Et le plus important, c'est que ce récit-là, il tend à être majoritaire au sein du Parti républicain, il faut bien le dire.
Est-ce qu'il y a un test à venir? Je pense aux élections du gouverneur du Virginie, par exemple. Là, ça va être le 2 novembre prochain. Est-ce qu'on se dit que c'est un espèce de test, ne serait-ce que sur cette atmosphère-là, en fait, ou pas?
Oui, alors c'est un double test. D'une part, Biden joue une grande partie de son capital politique. La Virginie, c'est un État qui a clairement basculé démocrate depuis une quinzaine d'années. Si jamais le candidat républicain, depuis Obama, si jamais le candidat républicain est élu gouverneur, c'est quand même un assez grand séisme politique. Et là, Biden verra son capital politique et donc sa capacité à faire avancer ses réformes très sévèrement entamée. Deuxième test, si jamais l'élection est serrée, est-ce que les deux partis parviendront à reconnaître la victoire de l'un, la victoire de l'autre? C'est vraiment extrêmement compliqué, d'autant que Trump, qui s'était dans un premier temps tenu éloigné parce que le candidat républicain Youngkin n'est pas son type de républicain, vient d'arriver dans la campagne, vient de lui apporter un soutien massif, et donc il y a quelque chose vraiment qui se joue effectivement dans cette élection qui a toujours été, puisqu'elle a eu un an après la présidentielle, un test, mais là qu'il est encore plus que d'ordinaire.
Quand on parle de test, est-ce que vous diriez que le Texas en ce moment, qui fait beaucoup parler de lui à bien des égards et notamment sur les lois anti-avortement, que le Texas est une sorte d'appartement témoin d'une Amérique post-Trump? En fait, on dit souvent, alors on dit beaucoup de bêtises aussi, mais que la voie qu'emprunte le Texas en général est la voie qu'emprunte ensuite les États-Unis.
Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'est la voie qu'emprunte les États-Unis, mais en tout cas, c'est clairement la voie souhaitée par l'Amérique de Trump. C'est-à-dire que c'est une forme de Trumpisme suivi par le gouverneur Abbott, qui est très, j'allais dire, obséquieux envers Trump, et par son ministre de la Justice locale, Paxson, qui lui aussi est très Trumpiste. Là, il y a un véritable projet de société, donc avec une restriction très forte de l'avortement, avec une libéralisation du transport des armes, avec aussi une réécriture de ce qui est enseigné dans les écoles pour aller dans un sens conservateur. On a véritablement un laboratoire de ce que serait peut-être une candidature Trump en 2024, avec l'idée qu'il pourra présenter le Texas, comme vous le disiez, un petit peu comme un appartement témoin de ce qu'il voudra faire s'il revenait au pouvoir.
Dont on lit dans la presse américaine qu'il pourrait d'ailleurs se déclarer beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on peut aussi imaginer que non? Et est-ce que tout ce qu'on vient de se dire tient toujours la route si de toute façon ça n'est pas lui, s'il ne sort pas du jeu maintenant?
Alors, le fait est qu'aujourd'hui, s'il se présente, tous les sondages convergent, il recevrait à peu près 2/3 des voix des électeurs républicains. Donc, il écraserait la concurrence. Maintenant, il y a deux choses contradictoires. Il faut pas oublier quand même si Joe Biden a montré que c'était possible, Donald Trump, il a aussi son âge. Il aura un âge assez avancé, assez élevé en 2024. Faut avoir l'énergie d'y aller. Faut avoir l'envie de faire la campagne. Mais ce qui est certain, et ça a été aussi une des grandes surprises de cette année, c'est qu'il a accumulé un véritable trésor de guerre à titre personnel avec ses comités d'action politique. Il a en caisse des dizaines de millions de dollars qui lui permettent d'influencer les élections de 2022 et qui en quelque sorte peuvent lui permettre d'anticiper d'ores et déjà l'appel et presque, j'allais dire, d'assécher le marigot. C'est-à-dire que si là il sort du bois, Personne n'ira contre lui. Ils l'ont déjà tous dit. La gouverneure Nikki Haley, qui a été son ambassadrice à l'ONU, Pence, son ancien vice-président, l'a laissé entendre. S'il sort, ils vont pas contre lui. Maintenant, est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'il pourra tenir 2 ans ensuite à tenir à son âge la campagne? Ça, c'est la vraie question.
En tout cas, il y a d'autres rendez-vous, on l'a bien compris, des rendez-vous prochains, celui du 2 novembre en Virginie. Il va y avoir une sorte d'anniversaire du mois de novembre qui n'en est pas un puisqu'on sait comment ça s'est passé. Et puis ensuite, l'histoire du Capitole, on verra bien comment tout ça évolue aux États-Unis. Corentin Salin, je vous remercie et à très vite dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde. C'est au Mali, dans le camp de Tessalit, qui peu à peu se vide, comme annoncé par Emmanuel Macron, puisque 3 bases de soldats français sur 8 vont disparaître dans l'année. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Logeni.
On restera aux États-Unis pour parler d'un mouvement, la grande démission, ou comment des millions d'Américains démissionnent depuis le Covid pour changer de vie.
Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir, je vous propose un western contemplatif pour communier avec la nature, la conquête de l'Ouest, vue par Kelly Richard, son nouveau film. S'appelle First Co.
Le monde d'après, Franck Madvon. Bonsoir à vous, Franck.
Bonsoir, Fabienne. C'est le retour des manifestations au Soudan. Les autorités de transition sont fragilisées et l'armée menace de reprendre les commandes.
Le tour de la planète n'est pas fini. Les amis, il continue avec José González, l'assaut in, et c'est sur France Inter. Ce soir est au Mali, qui s'apprête peu à peu, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron, à fermer certaines de ses bases, à en fermer 3 sur les 8 qui existent. Le nombre de soldats français au Sahel va baisser de 5100 aujourd'hui à 3000 environ d'ici un an. Les 3 bases concernées, Kidal, Tombouctou, Tessalit, C'est là que l'on s'arrête, Tessalit, le long de la Transsaharienne. C'est le plus isolé des postes avancés français. Il est à 50 km de l'Algérie, mais à 5 jours de Gao. Ce camp qui accueillait 200 soldats avec des pointes parfois à 500 ne compte plus aujourd'hui que 80 soldats qui ont vu le 12 octobre dernier partir un convoi déménageant une bonne partie des installations de Tessalit. Franck Cognari était, et c'est lui qui raconte.
Il a fallu une heure aux 110 poids lourds et blindés qui s'éloignent pour passer la chicane qui marque la sortie du camp.
Déjà, je vois tout le confort partir.
Le patron du camp, un capitaine, Florent, traverse à grandes enjambées ce qui ressemble désormais à la ville fantôme d'un Far West oublié.
Et puis, ouais, on a ce côté un peu symbolique d'être les derniers Français de Tessalit.
Tout ou presque est parti du camp dans 140 containers, 200 tonnes, plus un des deux mortiers, plus des moyens de détection et de défense. Et 80 soldats vont rester ici encore un mois, garnison isolée sous la menace d'un ennemi éloigné. Le 15 juillet, entre 7h22 et 7h35, 14 roquettes et obus ont frappé le camp et ses alentours. C'est ce que les militaires appellent une attaque indirecte. Ça, et les IED, les mines artisanales, c'est le mode opératoire d'un adversaire qui fuit le combat frontal. Et pourtant, dit le capitaine.
Il y a une forme de respect pour l'homme qui est capable de se déplacer, de vivre dans un environnement aussi inhospitalier que l'est la Drar, la montagne des Iforas. Donc déjà, c'est un respect de chasseur alpin. On n'a jamais eu d'ennemis face à nous. On a eu d'ennemis qui étaient loin, qui nous observaient. Et du coup, on n'a pas une haine débile de l'ennemi. On n'a pas pu avoir cette haine débile puisqu'on ne l'a pas vu, on n'a pas pu le voir au bout de nos fusils.
Ici, à peine sorti de la base, on ne sait pas trop où est-ce qu'il faut regarder, ce qu'on va devenir. Voilà.
Thibaut, un sergent-chef.
L'ennemi IED n'est pas forcément... on se dit c'est pas vraiment un ennemi, c'est un ennemi qui n'existe pas jusqu'à ce que... On peut essayer de l'éviter au mieux, mais une fois qu'on roule dessus, on a roulé dessus. Alors que l'ennemi qui est en face, qui est avec sa calache, et il est à 100 mètres, il est posté, je le vois, je le sais... Je peux armer mon HK 416 et tirer.
Thibaut, dans cette salle au mur d'Ekati, raconte les graffitis militaires qu'il ne faut pas laisser, les affiches qu'il faut brûler. Il y a 8 ans de traces militaires françaises à effacer. Cœur pincé, mais tête relevée.
Il y a vraiment la fierté d'être de ceux...
Florent, le capitaine.
...qui sont capables d'être un peu loin du confort central de Gao. Quand je dis qu'on descendra et qu'on roulera le drapeau français de Tessalit pour la dernière fois... Forcément, ça leur parle. Ça leur donne le sentiment d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel, au sens sémantique du terme, d'exception.
Alors que l'officier fait le tour de la base, à chaque arrêt, des militaires se présentent ainsi. Je suis le dernier chef pétrolier de Tessalit. Je suis le dernier chef de section infanterie de Tessalit. Et puis, certains sont sensibles au décor de Tessalit. La voiture du capitaine s'arrête devant l'unité médicale.
Je suis le médecin-en-chef Julien, je suis anesthésiste-réanimateur et médecin-chef de la...
Le doc aime la géographie de Tessalit, il en convoque l'histoire, remonte aux officiers méharistes français du siècle dernier.
Très, très magique, hein, ne serait-ce qu'avec les montagnes que l'on voit à la sortie du camp, dans cette zone Touareg qui est riche.
Tous les jours, à 15h, il monte sur un toit pour profiter du bleu si particulier du ciel à cette heure-là. Dans une salle du QG où un ventilateur brasse l'air chaud, plus de clim ici, une vieille porte en contreplaqué sert de table. Entre Florent, le capitaine français, et Sidi Bé, un capitaine malien. D'ici un mois, à la place du drapeau français, c'est le Malien qui flottera sur la place d'armes de Tessalit. D'ici un mois, il y a la transition à organiser, les dernières consignes à donner, les derniers entraînements communs à Calais.
Okay, donc on fait un petit tour de table sur ce qui a déjà été planifié à court terme.
Le capitaine Sidi Bé demande à Florent plus d'exercices de défense du camp. Reprendre Tessalit est pour lui un symbole et il veut tenir en cas d'attaque djihadiste. Le français propose 2 exercices par semaine, le malien répond 3, puis 4.
Ça, c'est la priorité. Si on peut multiplier assez de scénarios comme la fois dernière.
Tessalit paraît aussi loin de Paris que de Bamako. Les tensions politiques entre les deux capitales ne descendent pas jusqu'aux deux capitaines. Les phrases vachardes leur passent au-dessus, bien au-dessus. Eux ont autre chose à faire. Leur souci est d'ordre militaire.
Franck Cognard au Mali pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, ça se passe sous les radars. Et c'est Sébastien Logénie. Et nous sommes donc de retour aux États-Unis, Sébastien, où des milliers d'Américains se filment en train de démissionner.
C'est un hashtag qui se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux depuis des mois, depuis la crise du Covid, The Great Resignation, la grande démission. On pourrait aussi appeler ça la grande évasion en français. Il s'agit d'Américains, généralement salariés, qui postent des vidéos d'eux-mêmes en train de quitter leur travail. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour dans cette entreprise, lance par exemple cette femme. Je quitte en ce moment le bureau et pour toujours. I did it, je l'ai fait, je suis trop fier de moi. Voilà un extrait parmi des milliers d'autres, en particulier sur TikTok, qui montre des Américains ayant profité du Covid pour réfléchir à leur choix de vie. C'est un vrai phénomène de société, pas une mode passagère. Les États-Unis connaissent depuis cette année un pic de démissions sans précédent entre les mois de mars et de mai de cette année. Écoutez bien, 11 millions d'Américains ont démissionné, dont 4 millions pendant le seul mois d'avril. Près de 3% des salariés américains qui ont quitté leur travail en seulement un mois. Record battu même en août avec 4 300 000 nouvelles démissions. Alors quelles sont les raisons avancées par ces démissionnaires? Envie de liberté, de changement, salaire trop bas, cadence infernale et burn-out. Le phénomène reste essentiellement américain, mais visible dans quelques autres pays développés. Dans les pays pauvres, en revanche, il est bon de rappeler que la pandémie et la elle a fait des ravages économiques dramatiques. 26 millions de travailleurs informels, par exemple, ont perdu leur emploi en Amérique du Sud.
Direction Glasgow, en Écosse, où les prix des hôtels explosent à quelques jours de la COP26.
Cette 26e conférence sur le climat aura lieu à partir du 1er novembre prochain, dans une douzaine de jours. Un événement planétaire qui doit rassembler près de 120 chefs d'État et 25 000 participants. Or, à moins de deux semaines de l'événement, beaucoup de délégations ne trouvent tout simplement pas à se loger, notamment les pays les plus pauvres, car le prix des hébergements a flambé dans des proportions totalement dingues.
Glasgow is a city transformed.
On entend ici une publicité de la municipalité de Glasgow vantant les mérites de la ville. Glasgow qui a su se relever après le déclin de son industrie portuaire. Sauf que la moderne Glasgow, une ville presque deux fois grande comme Paris, eh bien dispose d'un parc hôtelier sous-dimensionné. 15 000 hébergements seulement. Résultat, les hôtels en profitent grassement. On y trouve par exemple des chambres à 1000 euros la nuit pendant la COP26, soit 16 fois plus que les tarifs habituels. Sur Airbnb, même chose, on trouve des appartements de 70 mètres carrés pour 21 600 euros la semaine. Les délégations, oui c'est énorme, les délégations les moins riches ont dû se rabattre sur Édimbourg à 75 km de Glasgow. Et il y a une semaine, deux bateaux de croisière sont même arrivés sur place pour accueillir jusqu'à 5000 personnes de plus. Face à cette flambée très opportuniste des prix qui risquerait des corner la réputation de la ville. Un réseau d'habitants vient toutefois de se mettre en place pour proposer des logements à petit prix, voire même gratuits, l'honneur est sauf.
Allez, on part maintenant pour la Méditerranée, où un plongeur vient de découvrir un trésor qui serait vieux de près d'un millénaire.
On est là au nord d'Israël, samedi dernier, alors que Shlomi Katsin, un plongeur amateur, nage le long des côtes de Césarée, il tombe sur un curieux objet pris dans la roche, une épée d'un mètre de long avec une poignée de 30 cm digne d'Excalibur, entièrement couverte de coraux et de coquillages. Une épée en parfait état que l'autorité israélienne des antiquités pense pouvoir dater des croisades il y a 900 ans, à l'époque où les chevaliers chrétiens s'élançaient vers Jérusalem pour la conquérir. C'est le directeur de l'unité d'archéologie marine israélienne que l'on entend ici. Le plus intéressant, raconte-t-il, que c'est l'une des premières fois qu'une épée entière est retrouvée aussi bien conservée, notamment parce que les matériaux archéologiques survivent généralement mieux sous l'eau que sur terre. L'épée a été trouvé non loin d'un château templier du début du XIIIe siècle, et c'est pour cela qu'on suppose qu'il s'agit d'une épée de la période des croisades. Voilà, l'épée sera bientôt nettoyée, analysée, avant d'être exposée au public, au département des trésors nationaux. L'histoire ne dit pas, Fabienne, toutefois, si l'épée de Césarée rend invincible comme celle du roi Arthur.
Voilà, si ça rend pas invincible, ça sert à rien comme super pouvoir, je voudrais vous le dire. Allez Sébastien, à demain, vous partez avec Liam Bailey, White Lights, et c'est sur France Inter, hein, tout de suite.
See you in the white light. Catch your feelings as we make a home. We're going places. You know me well. I'm
kid, you act nice. Hold tight, go rock for life.
Liam Bailey, White Light, c'est sur France Inter. Le mercredi, c'est cinéma et Corinne Pellissier.
France Inter. Un jour dans le monde.
On y est, hein. Son cinéma depuis 25 ans est une invitation permanente, Corinne, à communier avec la nature et préserver notre environnement. Vous allez nous parler du nouveau film de Kelly Richards sur les écrans ce mercredi. Ça s'appelle First Cow, comme la première vache. Plusieurs fois reporté à cause du Covid et qui tombe finalement à point nommé à quelques jours du coup d'envoi de la COP26.
Bah, c'est un film qui se déroule en pleine conquête de l'Ouest au début des années 1800 dans l'état de l'Oregon, un western contemplatif dont la thématique principale tourne autour de la condition de vie de la population et du commerce des fourrures, sujet brûlant de la dernière Fashion Week, mais auquel Kelly Richards s'intéresse depuis longtemps. On a vu beaucoup de films ces derniers mois sur la condition animale, l'épuisement des ressources, les migrations forcées aussi autour du climat. Elle, ça fait 25 ans qu'elle interroge nos pratiques dans ses films. On peut citer Wendy et Lucy, Old Joy, Night Moves, qui avait reçu un prix, un grand prix même, au Festival de Deauville. River of Grass, également son premier film en 94. Vous pouvez tous les revoir en ce moment dans le cadre d'une grande rétrospective au Centre Pompidou. Kelly Richards en mode pionnière de la cause environnementale, mais toujours très modeste, vous allez l'entendre.
I feel, you know, out of my field talking about things outside of film because it's not like I have no footprint.
Vous savez, je suis toujours un peu mal à l'aise de parler d'autre chose que de cinéma. Ce n'est pas comme si mes films ne laissaient aucune empreinte écologique. Je me sens mal placée pour commenter. Quand j'ai tourné mon premier film, River of Grass, je ne connaissais rien d'autre que la Floride dont je suis originaire. C'est Larry Fessenden qui joue dans le film qui m'a fait prendre conscience véritablement de toutes ces questions. La chasse aux castors qui allait finir par conduire à l'extinction de l'espèce. Les peuples américains aussi qui avaient été les premiers à peupler les berges du fleuve Columbus pendant des siècles, qui étaient eux aussi menacés.
I do think there's a collective sadness.
À mesure que nous prenons conscience de l'impact de nos actes, de l'épuisement à venir des ressources, nous sommes tous envahis, je trouve, d'un grand sentiment de tristesse. J'adorerais être comme Greta Thunberg. Elle m'impressionne beaucoup. Il nous faudrait une armée entière de personnes comme elle.
Alors, ce qui est intéressant, Corinne, chez Kelly Richards, c'est que son questionnement n'est jamais frontal. Alors, le message, certes, est symbolique et très fort, mais il passe toujours par une vraie vision de cinéma.
Voilà, des films à l'univers visuel à très fort, avec une atmosphère, une esthétique reconnaissable à chacun des plans. Le premier qui va vous marquer dans First Cow, c'est l'arrivée de la fameuse vache prodige, hein, la toute première qui arrive dans l'état de l'Oregon, celle qui va permettre de produire du lait et qui donne son nom au film. Une première image sublime, en format carré, de cette vache acheminée sur une barge qui arrive le long du fleuve. Le cadrage est magnifique, exactement comme si vous regardiez un tableau. Il y a beaucoup de mélancolie, peu de moyens, mais c'est une très belle histoire avec à la clé une grande amitié entre deux hommes, King Lou et Cookie, qui sont restés eux en marge du rêve américain. On va les suivre pendant tout le film un peu en mode survie, autour justement de cette vache à laquelle ils vont essayer de voler du lait pour fabriquer des petits gâteaux, gagner de l'argent en vue d'ouvrir peut-être un jour un restaurant ou une boulangerie à San Francisco.
We have to take what we can when the taking is good.
It seems dangerous.
So is anything worth doing?
yet she barely produces a thing.
You got a window here, Cookie.
Alors voilà, c'est un film à contre-courant de nos sociétés d'abondance, de consommation, dans un esprit donc de western contemplatif qui vous prend à l'estomac et ne vous lâche pas. Allez, il paraît que les gâteaux sont parfaits.
Ah bah, on espère bien, ça s'appelle First Cow, grâce au lait de la première vache. Signé Kelly Richards, ça se passe au cinéma évidemment ce mercredi. Corinne Pellissier, merci.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Franck Madvon ce soir au Soudan. Franck, depuis quelques jours, des milliers de protestataires sont rassemblés devant le palais présidentiel à Khartoum. Ces manifestants demandent un gouvernement de militaires. 2 ans et demi après la chute du dictateur Omar el-Béchir, on croyait le Soudan sur la bonne voie. Cette mobilisation ouvre une nouvelle crise. Les autorités de transition sont très fragilisées. C'est votre monde d'après.
Commençons, Fabienne, par quelques rappels sur l'évolution politique du Soudan en 3 ans. Fin 2018, le gouvernement triple le prix du pain, colère de la population. Le mouvement de contestation s'étend à tout le pays et provoque en avril la chute d'une des plus anciennes dictatures d'Afrique, celle du général Omar el-Béchir, aux commandes depuis 30 ans. À l'été 2019, un accord de partage du pouvoir est adopté entre civils et militaires. Un conseil de souveraineté dirige alors le pays. Côté militaire, le général Al-Bourhan est nommé président. Côté civil, Abdallah Hamdok, ancien économiste de l'ONU, devient premier ministre. L'objectif de cette transition à deux têtes, redresser le Soudan et le conduire vers des élections libres en 2023. Les États-Unis retirent le pays de leur liste noire et annulent leurs sanctions. Le Soudan est présenté dans le monde entier comme un modèle de transition démocratique.
Alors aujourd'hui, donc, la situation politique a radicalement changé.
Depuis samedi, des centaines, puis des milliers de contestataires se sont installés en effet devant le palais présidentiel. Ils ont dressé des dizaines de tentes et promettent de ne pas bouger tant que le pouvoir n'aura pas été confié exclusivement aux militaires. Alors qui sont ces manifestants? Une partie d'entre eux sont issus des Forces pour la Liberté et le Changement. C'est la grande alliance qui s'était constituée en 2019 pour faire tomber Béchir et qui est aujourd'hui divisée en deux camps. Dans la faction dissidente, on trouve notamment des rebelles qui craignent de perdre leur influence. D'autres protestataires sont d'anciens soutiens du dictateur Béchir, d'autres encore sont directement liés aux militaires. Certains auraient été conduits à Khartoum en bus pour manifester, sans doute en échange d'une rétribution. C'est ce que montrent des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Une alliance très hétéroclite donc s'est formée avec un mot d'ordre, Abba Hamdok, du nom du Premier ministre, un civil on le rappelle. Tous ces contestataires estiment que l'armée est la seule apte à redresser le pays. Depuis plusieurs mois, les divisions au sein des autorités de transition étaient connues. Elles ont vraiment éclaté au grand jour lors d'une tentative de coup d'État il y a un mois. Un putsch manqué qui a donné des arguments à chaque camp pour rameuter ses troupes. Du côté des militaires, le général Al-Bourhan, président du Conseil de souveraineté, s'en prend ouvertement au gouvernement désormais. Il s'appuie sur de puissantes milices déjà actives sous le dictateur Béchir. Du côté des civils, le Premier ministre Abdallah Hamdok muscle aussi son discours. Il estime que le Soudan traverse sa pire crise depuis 2019 et compte sur le soutien de la rue. Une manifestation géante est organisée demain à Khartoum.
Alors, le contexte est explosif, Franck. Les Soudanais, le Soudan est aussi en plein marasme économique.
Oui, le pays ne se relève pas après 3 décennies de dictature. L'inflation avoisine les 400%. Le FMI a imposé une cure d'austérité drastique en échange de l'aide internationale. Le Soudan reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Depuis le mois dernier, des manifestants bloquent tout l'est du pays. Ils défendent des groupes rebelles qui estiment ne pas être assez bien représentés au sein des autorités de transition. Or, la majorité des marchandises arrivent par l'Est, par la mer Rouge, à Port-Soudan. Il ne fait guère de doute que les militaires instrumentalisent ce blocus qui aggrave les pénuries. L'armée trouve là des arguments encore pour dénoncer l'incompétence des civils au pouvoir. Vous l'aurez compris, Fabienne, la crise soudanaise est d'une grande complexité et beaucoup de chefs de milice jouent des rôles secondaires importants, mais on en revient toujours au même constat, le fossé se creuse entre civils et militaires. Demain, les deux camps vont donc manifester. Aujourd'hui, les appels au calme se sont multipliés, mais le moindre dérapage pourrait déclencher un nouveau cycle de violence.
Le monde d'après de Franck Madvon. Merci beaucoup Franck, à très vite. Dans un instant, c'est le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous, c'est le 18-20.